Les chroniques terriennes, une fois par mois sur Radio Saint-Af par Cécile Blanche.
Aujourd'hui, je vous propose un interview. J'ai rencontré par hasard Valérie et spontanément, elle m'a parlé de ce qui lui était arrivé. Un accident. Un accident qui avait changé son regard sur sa vie. Certes, il y a eu des films, des livres sur ce sujet. Mais comme chaque expérience est vécue différemment, me semble-t-il, j'ai trouvé intéressant de vous faire écouter ce témoignage. Voilà le résultat. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Ce qu'on retire d'une expérience,
ouais.
C'est ça qui m'intéresse. Alors,
oui.
Il y a l'accident,
ouais.
Il y a le séjour de 6 semaines.
Je n'étais jamais allée à l'hôpital. Donc quelqu'un qui n'est jamais à l'hôpital, 6 semaines, c'est déjà énorme. Hein.
Oui. Donc ça, c'était le deuxième point, hein, le séjour six semaines à la Malou.
Ouais.
Comment tu l'as vécu? Et tu m'avais parlé à ce moment-là de ton regard sur les autres.
Oui,
donc,
c'est ça.
Tu développais. Troisième volet, ton retour à la vie normale. Donc conséquence de ces épisodes sur tes relations, ta vision des autres, ta famille, ton entourage.
Ok, voilà. Ça marche. Hein, alors l'accident s'est passé dans la nuit du 13 mars au 14 mars et je me suis cassé l'épaule. Et il faut savoir que c'était donc 4 jours avant le premier confinement lié au Covid. Et alors j'étais prise en charge normalement à l'hôpital, si ce n'est que dans les couloirs on parlait que de ça. Hein. Mais j'étais prise en charge normalement. Comme c'était déjà le week-end, le chirurgien a fait une analyse rapide de ce qu'on lui transmettait par image, par mail. Et il a dit, bon, il y a une épaule cassée, il faut absolument que je la voie lundi matin. Alors, les choses se sont vraiment dégradées courant du week-end et lundi matin, c'était vraiment la panique. Donc moi, quand j'ai appelé l'hôpital, alors déjà, j'avais passé un week-end affreux, hein, de douleur, parce que j'avais vraiment quasiment rien, puis je savais pas du tout où j'en étais, s'il allait falloir être opérée, etc. Et donc lundi matin, quand j'appelle l'hôpital à 8h00, on me dit « Ah mais non, mais c'est pas possible, l'hôpital, c'est terminé, fini, Sainte-Afrique, fini ». Je leur dis non, mais là, ça va pas le faire, hein, parce que moi, je me suis cassé l'épaule, il faut que je sois opérée, j'ai très mal, vous faites quelque chose, là. Ah non, non, madame, c'est fermé, c'est terminé. Donc là, je raccroche, et comment dire, c'est un séisme pour moi. Enfin, c'était un peu comme si d'un coup, je me retrouvais sur une autre planète. Bah, ça fait bizarre de se dire qu'on n'a pas d'hôpital. Je me suis dit, c'est comme ça que vivaient les gens avant. Hein. Vraiment, d'un coup, c'est ça qui m'est apparu. C'est, voilà, on n'a plus d'hôpital. Mon mari commence à dire, bon, écoute, non, mais on va pas se laisser faire, t'inquiète pas, on va aller ailleurs, t'inquiète pas. Et là, l'hôpital rappelle. La secrétaire me dit, écoutez, le docteur veut vous voir absolument, venez tout de suite, parce qu'après, de toute façon, ça sera fermé. Le médecin, qui était vraiment très courageux, il s'est battu pour me suivre, vraiment, alors que tous ses collègues se moquaient de lui, hein, de continuer à travailler. Si j'avais pas eu ce médecin qui s'est battu pour continuer à consulter, critiqué par tous ses collègues, j'aurais perdu mon épaule. Et c'est important, hein, ce contexte, c'était quand même très très particulier. Il y a plein de gens qui ont vécu. Donc je suis entrée dans l'hôpital, c'était surréaliste, c'était désert, il n'y avait personne. J'étais prise de suite, il m'a dit écoutez, ça va pas trop mal, il n'y aura pas d'opération, mais enfin bon, c'est pas rien, c'est un endroit très très embêtant, ça va être très long, très ennuyeux, mais moi je ne vais pas vous laisser tomber. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est que vous n'avez pas le droit aux anti-inflammatoires, puisqu'ils n'avaient plus le droit depuis le lundi matin de prescrire les anti-inflammatoires. C'était contre-indiqué pour le Covid. Donc pas d'anti-inflammatoire, ça commençait bien. J'ai dormi assise pendant 2 mois, parce qu'en fait, il n'avait pas pensé à me prescrire un lit médicalisé. Il faut savoir que quand on a une fracture de l'épaule, on ne peut pas dormir couché. C'est insupportable. Donc, et comme c'était le confinement, on était coupé de tout. Hein. Rappelle-toi le début. Hein. On communiquait plus. Et quand on communiquait avec des gens, c'était juste pour parler du Covid. Et donc personne m'a dit, mais fais-toi livrer un lit médicalisé. Donc j'ai dormi assise 2 mois. Alors je te raconte pas l'état du dos, des cervicales, du sommeil en général. Donc j'étais à bout. Ça, plus l'absence d'anti-inflammatoire, plus le fait que les cabinets de kiné étaient fermés. Donc quand j'aurais dû commencer la kiné, je ne pouvais pas faire de kiné. Je ne pouvais pas. Et ben quand j'ai eu le droit de retirer la telle, et ben mon épaule, elle ne fonctionnait plus. C'était bloqué. C'est même pas que je ne pouvais pas bouger parce que j'avais trop mal. C'est que il y avait plus rien. L'épaule était
Donc pendant
bloqué.
2 mois, tu es resté.
Ouais, 2 mois avec une attelle. Ouais,
deux mois avec
peut-être
une attelle.
Un petit peu moins, mais enfin c'était déjà un peu trop en fait. Il aurait fallu que j'aie des mouvements avant, mais comme j'avais pas de kiné, moi j'avais
donc,
trop
bloqué.
Peur de déplacer. Bloqué et puis surtout assise pour dormir. Tu imagines l'ensemble du corps était un peu figé quoi. Donc je pouvais plus du tout lever le bras. Voilà, donc là, le kiné a dit, bah, de suite, il faut vraiment faire de la kiné tous les jours. Donc là, les cabinets ont rouvert pile à ce moment-là. Donc j'ai commencé, ça s'est pas super bien passé. Et mi-juin, j'avais toujours pas progressé. Donc là, il m'a dit, écoutez, pas de choix, il faut passer à la vitesse supérieure, sinon vous allez perdre votre épaule. Donc je vais vous envoyer pour l'été à la clinique de la Malou, qui est spécialisée là-dedans. Voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Quand on t'annonce que tu vas passer l'été à l'hôpital, la première réaction, c'est de dire « Ah non, mais c'est pas possible ça, moi j'ai des projets là, je dois faire des trucs avec mes enfants, je vais fêter mon anniversaire de mariage, mes 20 ans dans 3 semaines, il y a une fête de prévu, non, non, c'est pas possible. » Puis tu réfléchis 2 secondes et tu dis « Bon, je peux pas lever les bras, je peux rien attraper en hauteur, je peux rien porter, je peux pas m'habiller seule, je vais fêter mon anniversaire de mariage, mais je peux pas mettre les bras autour du cou de mon mari, alors je peux pas, bien sûr, danser, nager, tout ça, t'oublies. Hein. » Je me dis quand même, tout le reste de la vie, bof. Bon, ouais. Donc bah oui, va pour la Malou quand même. Pour la Malou. Donc j'ai attendu le jour où j'allais pouvoir rentrer à l'hôpital, hein, qu'on m'appelle. Pendant ce temps-là, bah, j'ai expliqué à mes enfants ce qu'il fallait faire au jardin, arroser le poulailler. Et j'ai débarqué à la Malou le mercredi 24 juin. Voilà, le cœur assez gros quand même. En même temps, plutôt dans l'abandon à la Providence, on va dire. Par contre, quand je suis arrivée sur le parvis de l'hôpital et que j'ai vu la dizaine ou la quinzaine de personnes en fauteuil roulant, dont la plupart n'avaient plus aucune jambe, quand je les ai vues et ils me fixaient toutes, il y avait des dizaines de perdus qui me regardaient passer. Oh, j'ai eu un moment de... Je me suis dit, non, mais va-t'en. Là, tu prends tes jambes, c'est pas grave, tu t'en vas. Et j'ai quand même avancé. Je suis rentrée dans le hall, il y avait un grand brûlé sur une civière qui gémissait. Je me suis quand même avancée à l'accueil, mais c'était plus moi, hein, c'était juste les jambes qui avançaient. Et là, bon, bah, une fois que j'ai été prise en charge, de toute façon, je ne pouvais plus partir. Voilà. Donc, mon arrivée à la Malou.
Arrivée à la Malou. Bon, donc, tu arrives à la Malou. Tu sais qu'il y en a pour 6 semaines.
Oui, on m'avait dit minimum 1 mois. Je tablais sur 1 mois, mais j'ai tout de suite compris que ça serait plus. Voilà. Normalement, ça devait même être 2 mois. Ils ont raccourci parce qu'ils avaient trop besoin de chambres et que j'étais plus un cas assez désespéré pour eux.
Bon, alors, après ton arrivée, qu'est-ce qui se passe?
Il y avait une boule dans la gorge qui grandissait et grandissait au fur et à mesure de l'après-midi parce que j'étais toute seule dans ma chambre d'hôpital et puis il se passait pas grand-chose en fait. À 18h15, le dîner, le souper est arrivé. Alors là, possible, souper à 18h15, c'est même pas encore l'heure de l'apéro. En plus, c'était immonde. Je te jure, j'avais vraiment envie de partir. Je me suis dit, allez, tu tiens le coup, ça va bien se passer. Il s'avère que comme je travaille à mon compte, j'avais quand même apporté tout mon bureau. Donc j'ai réinstallé mon bureau dans ma chambre d'hôpital pour pouvoir travailler. Donc ça m'a un petit peu aidé le premier soir, j'ai travaillé. Le lendemain, donc, j'ai commencé tous les soins. On avait vraiment des soins très, très rythmés. Entre deux soins, je reçois un MMS de ma fille qui m'envoie une photo du planning des tâches ménagères pour répartir équitablement entre les membres de la famille, en couleur, décoré et tout. Et là, je fonds en larmes. Les vannes ont cédé. J'ai eu une crise de larmes parce que je me disais, mais je suis vraiment une mauvaise mère, je les abandonne. Alors, petite parenthèse, mes enfants avaient quand même 15 et 18 ans à l'époque. Oui. Ils n'avaient pas 3 et 4. Et rétrospectivement, c'est le premier point positif que j'ai appris de cette expérience. C'est que mais je pleurais sur quoi, en fait ? Sur le fait que je ne suis absolument pas indispensable, que je ne suis pas la mère indispensable que je pensais. Ça, c'était vraiment une énorme expérience de lâcher prise. Je pense qu'il y a plein de femmes, elles n'ont pas besoin de ça pour le comprendre. Moi, il m'a fallu ça, cette expérience de l'hôpital, pour voir que la maison tournait très bien. Ah, ils n'étaient plus à l'hôtel, hein, c'est sûr. Mais au moins, ils ont appris à cuisiner, ils ont appris à s'occuper du poulailler et du jardin. C'est très positif. Il m'a fallu ça, moi. Ouais. Je pleurais, je faisais ce deuil. Et mais pourtant, il m'aime encore. Tu vois, c'est ça
qui était extraordinaire. Il m'aime encore.
Donc voilà, ça, c'est le premier point positif. Oui. C'est assez prosaïque, mais mine de rien.
C'est important.
C'est important. Bah, du coup, voilà, l'anniversaire de mariage, pour la première fois en 20 ans, on l'a vécu à distance. On s'était quasiment jamais quitté depuis 24 ans qu'on se connaissait. Donc bah, ça a mis quand même une espèce d'air frais dans notre couple. Hein. C'était bien, finalement. C'était dur au début. Mais oui, ça nous a apporté d'être un peu séparés. Donc là, je suis sur cette grosse crise émotionnelle liée à maternité qui s'enfuit, hein, n'est-ce pas ? Donc vraiment le blues total. Et je rencontre dans le couloir de l'hôpital un monsieur qui allait devenir un très très grand ami. On est toujours amis, hein, un an plus tard. Il était encore plus en galère que moi, j'allais dire, parce que lui, bon, c'était beaucoup plus grave. Son accident était vraiment très grave. D'ailleurs, lui, il n'a pas récupéré son bras. Et il était en grosse difficulté avec l'administration. Et il risquait de perdre une somme d'argent énorme. Et au secrétariat de l'hôpital, personne ne voulait l'aider. On me disait, bah, écoutez, c'est pas notre boulot, hein. On fait les admissions, point. Et l'assistante sociale était en vacances ou un truc comme ça. Et il m'a raconté ça. Je lui ai dit, bah, écoute, moi, ça tombe bien, j'ai mon bureau dans ma chambre d'hôpital. Viens, on va faire ce qu'il faut. Donc on a passé 2-3 heures ensemble à faire les démarches, faire des photos de ses papiers, les envoyer, aller sur Internet chercher des trucs. Bah, on est devenus amis. Et quand il a quitté mon bureau, enfin ma chambre d'hôpital, bah, la boule dans la gorge, elle avait disparu. Vraiment disparu. Et dès ce moment-là, j'ai eu une envie d'aller vers tous les autres malades, de discuter, de parler, d'échanger, de les écouter, de les aimer en fait. Et ça a duré pendant les 6 semaines. C'est-à-dire, dès ce premier jour où j'ai aidé cette personne, ça a basculé. J'ai arrêté de me regarder le nombril, en fait. Pourtant, c'était pas facile. Hein. Je souffrais beaucoup, vraiment beaucoup. On avait de la kiné très intensive. Il y avait même des fois où j'étais tellement motivée parce que je voulais partir. J'en faisais trop, donc après, pendant 3-4 jours, je pouvais plus bouger. Mais voilà, j'arrivais à arrêter de me regarder le nombril. Tout le monde était comme ça, à l'hôpital, ou presque. Si, on commence à se plaindre. Quand on dit « bonjour, salut le matin, salut, comment ça va ?» Tout le monde répondait « ouais, super, ça va super bien. » Or que tu sais que le mec, il n'a pas dormi de la nuit, tu le sais. Oui. Et on était tous comme ça, pourquoi ? Parce que si on a un qui commence à dire que ça ne va pas, bah, tout le monde va dire que ça ne va pas, de toute façon, on sait que ça va pas. Et donc, c'est pas, en fait, ce n'est pas faire semblant. On le sait, de toute façon, qu'on ne va pas bien. C'est dire « je choisis d'être dans une attitude positive qui va me permettre d'aller à la guérison. » Et ça, c'était le troisième point positif de me rendre compte de ça, de prendre conscience de ça. Et de cette bienveillance qu'il y avait entre les gens. Parce que quand on est dans la vie normale, si on souffre, vraiment une souffrance physique aiguë, on ne peut pas passer son temps à dire « j'ai mal ». C'est pas possible, l'entourage, de toute façon, il craque. Mais par contre, il faut savoir que quand on souffre physiquement, on n'est pas en pleine capacité. Et le problème, c'est que l'entourage, il oublie des fois qu'on n'est pas en pleine capacité. Et ça, c'est compliqué. La communication, je trouve, n'est pas facile. Moi, il y a des fois, j'avais envie de mettre un panneau marqué « j'ai mal ». Comme ça, ils savaient que j'avais mal et qu'il fallait être bienveillant. Et bien, à l'hôpital, l'intérêt, c'est qu'on souffre tous. Et on sait tous qu'on souffre. Et donc, il y a cette bienveillance réciproque que j'ai vraiment constatée. Peut-être pas chez tout le monde, il y a toujours des cas. Hein. Et du coup, quand je t'ai rencontrée, je venais de me souvenir d'une interview que j'avais entendue, étant jeune, d'une rescapée d'Auschwitz, qui expliquait qu'elle n'avait jamais pu se réadapter à la vie normale après sa sortie du camp. Parce qu'en fait, il y avait quelque chose dans sa vie qui manquait. Et c'était ça. C'était cette bienveillance solidaire. Et moi, effectivement, alors il y a un jour, on m'a dit, voilà, tu vas sortir le temps. Je ne pensais pas que ça me ferait ça. Mais en fait, j'ai failli dire, mais non, mais je ne peux pas partir, en fait. Là, je reste. Hein. En fait, je suis bien ici. C'est fou, hein. J'aurais jamais pensé partir ça. Et quand je l'ai annoncé à toute mon équipe de bras cassés, comme on s'appelait, mais il y en a deux qui ont fondu en larmes quand ils ont su que j'allais partir dans 2 semaines. Et la veille de mon départ, il y a une femme qui arrivait dans un état terrible, elle pleurait en permanence. Moi, j'ai failli aller dire, moi, je ne peux pas partir là. Il y a une femme qui n'est pas bien, là, il faut qu'on se serre les coudes, là, je dois rester.
Ouais,
tu vois, c'est intéressant. Hein. Ouais. Alors que le jour de mon arrivée, presque j'allais commencer à compter les jours comme dans une prison, tu vois. Donc, il y a vraiment eu ce changement total à 180 degrés de vision des choses. I'm no longer a slave. Oh, I am a child of God. Oh, I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. You unravel me with a melody, and you surround me. Of deliverance from my enemies until all my fears are gone, and I'm no longer a slave to fear. Oh, I am a child of God. I'm no child of God. oui, c'est vraiment intéressant. Et j'ai pu comprendre ce que disait cette dame, cette rescapée d'Auschwitz. Parce qu'effectivement, quand je suis revenue dans la vie d'ici, alors bon, faut voir que l'hôpital, ça n'a rien à voir avec Auschwitz, évidemment. Hein. C'est un temps de vacances. T'as pas à cuisiner, t'as pas à faire tes courses, t'as pas à faire ton lit, t'as pas à faire ton ménage, rien. T'as juste à faire tes exercices de kiné et à guérir.
Ça permet d'ouvrir autre chose.
Ah mais complètement. Pour moi, c'était, alors ça c'est le cinquième point ou quatrième, je sais plus où j'en suis, point positif, oui. C'était un chemin spirituel, vraiment. Parce que j'avais beaucoup de temps pour aller vers l'autre. Et donc, moi, mon petit rituel, c'est après le repas du midi, c'était le temps de la sieste en général. On avait... Et moi, j'allais dans l'église, qui était une église vraiment juste à côté de l'hôpital, très calme, il n'y avait jamais personne. Et je priais pour tous les malades que j'avais croisés. Tous, je les avais vraiment dans le cœur. Et ouais, c'était vraiment fort. Et après, j'ai eu la chance, vraiment, c'était un cadeau, en fait, de me rendre compte que le prêtre de cette paroisse, c'était un prêtre vraiment exceptionnel, qui s'appelle le Père Verlinde, et j'avais suivi des conférences sur YouTube. Quand j'ai vu que c'était lui, j'ai dit, mais oh, mais quelle chance! Et donc, on a pu échanger un peu, on a pu se voir de temps en temps. Et j'ai vécu une petite expérience mystique. Il y a une nuit où je souffrais particulièrement, où vraiment je n'en pouvais plus. J'ai dit, écoute, Jésus, si tu m'entends, viens souffrir avec moi, parce que moi, je n'y arrive plus. Et bien, écoute, immédiatement, je me suis endormie jusqu'au lendemain. C'était un baume sur mon cœur, sur mes blessures. Voilà, je me sentais plus toute seule. Ma souffrance était devenue habitée autrement. Ça, c'était le cinquième point positif. Alors, ensuite, donc j'ai quand même, ouais, avec cette prise de conscience que quand on est à l'hôpital, il y a cette bienveillance, cette joie. Parce que de temps en temps, tous les jeudis soirs à la Malou, pendant cet été-là, il y avait un concert au restaurant. Il y avait tous les restaurants, ils faisaient concert. Et donc nous, tous les bras cassés, on était une trentaine, on descendait et on réservait une grande table et on prenait le repas. Et bien écoute, je crois que notre table, c'était la plus heureuse. Pourtant, on était tous éclopés. Certains vraiment très éclopés. Certains, tu vois, qui ne récupéreraient jamais leurs bras. Certains, des jeunes avec des accidents de moto, ils ne pouvaient pas du tout bouger les bras. Et bien pourtant, tout le monde avait le sourire. Tout le monde racontait des blagues. Tout le monde était à l'écoute de son voisin. Pas de rivalité. Et je regardais, il y avait une table avec que des jeunes de, je sais pas, d'une vingtaine d'années. Et ils avaient l'air mornes. Donc ça, pourquoi? Quand on est à l'hôpital, il y a cette joie et cette bienveillance. Ça m'a vraiment, vraiment questionnée. Et quand je t'ai rencontrée, je ne sais pas trop où j'en étais en août, mais je cheminais vraiment avec cette question. Et depuis, j'ai réfléchi. Alors, on était dans un lieu particulier, dans une situation, j'allais dire, pas naturelle. Mais surtout, je pense que la clé, c'est qu'on avait un ennemi commun qui était l'absence de santé, la maladie. C'était notre ennemi commun. Tous, on avait cet objectif de sortir le moins malade possible de l'hôpital. Donc la question que je me pose, c'est, et ça c'est ce qui m'habite depuis, hein, mon questionnement est presque mon combat quotidien. Comment je peux faire pour que les gens autour de moi, et par extension partage d'huile la planète complète, le genre humain complet, se rendent compte qu'on est tous un clan finalement, un clan, oui, l'espèce humaine, un clan, on est tous liés, de la même famille, sur le même bateau, sur cet espace contraint et clos qu'est la planète Terre. Comment ça se fait qu'on ne soit pas encore rendu compte qu'on a un ennemi commun? Voilà, ça, maintenant, tu vois, c'est vraiment la question qui m'habite,
oui,
et qui me motive le matin. Voilà, comment je peux faire découvrir aux gens qui m'entourent que on est ensemble, et qu'ensemble, on doit avancer, même si cette personne-là, je ne l'aime pas, je ne sais pas, on ne se plaît pas, mais quand même, on est ensemble et dans la même équipe.
Ton retour à la vie normale, ouais. Ça aussi, ça en fait partie.
Alors, ça en fait partie, parce que j'étais dans ce changement. Alors, il faut voir que mon retour à la vie normale, j'ai continué la kiné. Donc, j'étais pas guérie. Comme ils disent à la Malou, j'étais dégrossie. Et donc, j'ai repris la kiné tous les jours. Mais par contre, il y a eu encore des points positifs, des cadeaux. Et même un jour, je me souviens, j'ai dit à la kiné, mais heureusement que je me suis cassé l'épaule. Puis après, je me dis, mais tu racontes? Parce qu'en fait, pendant toutes ces séances de kiné, j'ai pu discuter d'autres choses et guérir deux autres points de mon corps qui étaient pas graves, mais qui étaient quand même un peu handicapants. Et que je pensais pas qu'on pouvait guérir par la kiné. Et que j'avais dit, c'est pas grave, je garderai ça le reste de ma vie, je m'en fiche. Des choses que je n'aurais pas soignées si j'avais pas eu cet accident. Et le dernier point positif, ça doit être le septième, un chiffre emblématique. C'était, alors moi, je suis une impatiente chronique, et c'est, pour moi, c'est un très vilain défaut parce que c'est pas agréable pour l'entourage. Et j'ai vraiment appris la patience. Apprendre que des fois, on ne progresse pas du tout pendant un mois, et puis qu'après, ça va un peu mieux, et puis après, ça ira de nouveau pas. Je dis pas que je suis guérie de l'impatience, mais je sais que je suis en chemin. Sur le chemin. Et surtout, maintenant, je me rends compte de l'effet négatif que ça a. Voilà, je crois que j'ai tout raconté là.
Donc, tu as fait un chemin. Et ton mari, est-ce que ça a eu un impact pour lui ?
Je pense que pour lui, c'était beaucoup plus difficile que pour moi, en fait. Moi, en fait, j'avais mes combats avec mes collègues. On était dans notre équipe, là, de bras cassés. On vivait nos trucs, on vivait des choses très fortes. Et lui, il était là avec le quotidien. Et puis, le jour de l'anniversaire de mariage, ben, on n'était pas ensemble. Mais après, ben, on l'a bien vécu parce que dès que je suis rentrée, on a organisé une petite fête quand même. Je crois qu'il m'a vu évoluer aussi. Je lui racontais vraiment beaucoup tout ce que je vivais. J'ai eu des moments où j'étais très mal la nuit, où je l'ai appelé. Il m'avait dit que je pouvais l'appeler n'importe quand. À l'hôpital, c'est fou, hein. Les moments où on se sent plus mal, c'est vers 2-3 heures du matin. Ouais. C'est rigolo, hein. On est tellement seul, puis on n'ose pas appeler l'infirmière, et puis on a plus mal la nuit. Bah déjà, pour une épaule cassée, parce qu'on est couché, et le fait d'être couché, c'est très très dur. Je sais pas pourquoi ça fait si mal. Et donc, je l'ai plusieurs fois appelé dans des moments où je vivais vraiment des nuits, quoi. Des nuits où tu sais plus où t'en es, t'étais. Et donc, on a avancé ensemble. Voilà. Différemment, mais ensemble.
Et ton entourage ? Est-ce que les autres qui sont autour de toi...
Qu'il y a eu un changement dans ma vie ? À cause de cette expérience ?
Oui, voilà.
Personne ne m'a fait remarquer quelque chose, non.
Bien, très beau témoignage.
C'est vrai ?
Oui, oui, oui. Très émouvant.
Ah ouais, bon, bah, écoute, si ça peut permettre à des gens qui sont dans la souffrance d'essayer de se dire qu'il y a forcément quelque chose de positif à tirer. Je crois que c'est ça que j'en retire. Oui, et souvent, plus on creuse dans le positif que ça nous a apporté, et plus on voit d'autres niveaux qui s'ouvrent. C'est ça aussi. Des portes qui s'ouvrent dans notre vie... Et puis, bah alors, tout simplement, moi, maintenant, je ne vois plus du tout les personnes handicapées comme avant. Vraiment, plus du tout. Je les vois, j'allais dire, de l'intérieur, en fait, tu vois. Le fait d'avoir passé des heures entières à discuter avec des gens qui sont amputés des deux jambes, qui sont là avec leurs moignons, qui attendent leur prothèse, on n'a plus cette difficulté à regarder. Parce que des fois, c'est ça, tu vois, tu sais plus quoi regarder, en fait.
T'oses pas.
Alors que là, mais des fois, même ils nous montraient le moignon, tiens, regarde ma cicatrice, ah ouais, tiens, bah, et toi, alors, bah tiens, moi, tu vois, voilà. Il y a un regard sur le corps qui change, parce qu'on regarde la personne de l'intérieur. Elle est un autre nous-mêmes. Et ça, il faut le vivre, ça, pour le comprendre. Pour comprendre aussi ce que c'est que le handicap. Tant qu'on n'a pas été handicapé, bon, moi, c'était un petit handicap, hein, j'avais mes jambes, j'avais quand même un bras qui fonctionnait. Tant qu'on ne l'a pas vécu, je crois qu'on ne peut pas comprendre ce que vivent les autres. Et rien que pour ça, c'est intéressant de vivre ça. Parce qu'on va vraiment être bienveillant, tout simplement. Et je crois que c'est ce qui manque le plus. C'est la bienveillance. Moi, je vois dans mon métier. Les gens manquent cruellement de bienveillance. Et ils ont tellement peu de bienveillance et ils en reçoivent tellement peu que leur seule façon d'agir, c'est l'agressivité. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront, alors, ils savent qu'ils n'auront pas de cadeau, donc direct, c'est l'attaque. Tout de suite, mais laissez-moi parler, vous ne savez pas ce que je vais vous dire. En fait, je vais vous annoncer peut-être une bonne nouvelle. Calmez-vous, monsieur, tu vois. Vraiment, si, ce qui manque au monde en ce moment, c'est ça, c'est la bienveillance. Et c'est quoi la bienveillance? Tout simplement, voilà, je veux le bonheur de l'autre, lui aussi veut le bonheur, bah parfait, avançons ensemble, et on ira très 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 loin. On ira jusqu'au bout, en fait. Et la bienveillance à l'autre, c'est travail tous les
jours. Tous les jours, oui, oui.
Bon, moi, dans mon métier, j'ai un gros travail à faire. D'ailleurs, de plus en plus, je vais le faire, c'est dire à la personne, si je sens que je vais être pénible, hein, parce que l'autre, il est trop, trop agressif, de dire, écoutez, je vous rappelle dans 5 minutes. Hein, le temps de laisser poser, retomber le soufflet, là. Pouvoir reprendre les marques de qu'est-ce que c'est que d'aimer. Aimer, c'est vouloir le bonheur de l'autre, quel qu'il soit. Même quelqu'un que je ne connais pas. Je veux son bonheur parce qu'il est dans la même équipe de foot que moi et je veux marquer des points avec lui.
Eh ben, c'est très riche, très intéressant. Je suis bien contente de t'interviewer. Valérie, merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Notre émission est terminée. Comme d'habitude, elle est rediffusée demain mercredi à 8h15 et samedi à 16h. Et bien sûr, elle est à réécouter en podcast sur Radio Sainte-Afrique, les mensuels, les culturels. Nous nous retrouverons, si vous le voulez bien, mardi 2 novembre. Bon, d'ici là, on ne sait pas ce que va nous concocter encore comme règle incohérente notre cher gouvernement. Mais nous résisterons encore à ces aléas.
J'allais oublier. Les ponctuations musicales ont été choisies par Valérie. Vous avez pu entendre Natacha Saint-Pierre, Zach William, Lorraine Daigle et quand même, dans mes listes, Paciencia de Maria Elena.
Avant de nous quitter, encore un petit quelque chose. Je vais vous lire un extrait d'un texte écrit en 1952 par Albert Camus, Retour à Tipaza. Je rassasiais les deux soifs qu'on ne peut tromper longtemps sans que l'être se dessèche. Je veux dire, aimer et admirer. Car il y a seulement de la malchance à n'être pas aimé. Il y a du malheur à ne point aimer. Nous tous aujourd'hui mourons de ce malheur. C'est que le sang, les haines décharnent le cœur lui-même. La longue revendication de la justice épuise l'amour qui pourtant lui a donné naissance. Pour empêcher que la justice se racornisse, je redécouvrais à Tipaza qu'il fallait garder intacte en soi une fraîcheur, une source de joie, aimer le jour qui échappe à l'injustice et retourner au combat avec cette lumière conquise. Bonsoir.